De reprendre peut-être les choses dans l'ordre le plus évident. On a beaucoup parlé de l'Europe aujourd'hui, aussi bien dans la revue de presse que dans l'enquête sur la Grèce et l'éditorial sur le Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous inspire ces possibilités d'un Brexit, d'une sortie de l'Union de la Grande-Bretagne ?
Ça n'a jamais trop marché, l'Europe à la carte. Ça a marché quand économiquement les choses allaient. Là, on voit que l'Europe est contestée de tous les côtés, que ce soit en Allemagne, ce qui est assez nouveau parce que l'Allemagne est un pays relativement europhile. Si ça permet une Europe plus intégrée, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça soit l'inverse.
Ouais, moi je pensais, quand tu parlais là, que l'Europe à la carte, ça n'a été une réalité depuis toujours que pour le Royaume-Uni.
Oui, ça c'est très clair.
Ah, oui, c'est ça. Non, parce que oui, voilà, depuis l'euro monnaie unique, justement, dont Maxime parlait, ça laisse très peu de marge de manœuvre à beaucoup de pays, en premier lieu le Portugal et la Grèce.
Oui, il y a un modèle d'intégration du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, vraiment toujours le cul entre deux chaises, et David Cameron reflète vraiment cette position. Attachement à un certain nombre de principes, allez, on va dire politiques et économiques, ceux du libéralisme, mais d'un autre côté, frigidité à l'égard de tout ce qui pourrait ressembler à une réglementation, une uniformisation. Et c'est ça qui est en train de vaciller un peu, j'ai l'impression.
Bah oui, et il serait en fait un peu temps pour tout le monde, parce que c'est quand même un problème que des pays membres n'aient pas une souveraineté économique, en fait. C'est-à-dire que quand on a la Banque Centrale Européenne qui impose des mesures comme ça, qui sont plus ou moins dictées par l'Allemagne sans vouloir faire de rhétorique complotiste.
Ouais.
Des pays comme la Grèce ou le Portugal ne peuvent pas dévaluer leur monnaie quand elles sont en situation de crise, parce qu'il ne faut pas faire plus de 2% d'inflation, et ça crée vraiment des problèmes. Il faudrait peut-être que l'Europe soit justement un peu plus à la carte que ce qu'elle est actuellement pour plus de pays. Parce qu'effectivement, là, enfin, c'est un avertissement, quoi. Mais comme il y en a eu beaucoup d'autres.
Et parce qu'on est bien d'accord que une intégration plus avancée, irait évidemment dans le sens d'une perte de souveraineté,
oui.
d'une uniformisation des principes économiques, enfin des politiques économiques, oui, bon, ça c'est
oui,
très clair. Et justement, la question de la souveraineté, parce qu'on y revient toujours, et c'est ça qui est un peu au cœur du mouvement fondé par Yanis Varoufakis. Enfin, justement, c'est ça qui m'étonne. Fonder un mouvement pro-européen à Berlin,
oui.
C'est de la provocation ou c'est de la maladresse à ce stade ?
Je pense qu'il y a un peu des deux.
Oui.
Mais...
Moi, Varoufakis, je le verrais bien. Je le vois bien arriver à Berlin, justement, comme il est arrivé au Conseil européen sur sa moto. Et
ouais,
puis,
en veste de cuir.
Allô les mecs, on va rénover l'Europe. Hein.
Non, mais comment dire, c'est plus de la symbolique que de la provocation, même s'il y a une part de provocation dedans, je pense. Mais effectivement, ouais, il y a un petit peu des deux, peut-être. Mais moi, je verrais plus quand même. Enfin, je pense pas que ce soit tant une maladresse que ça, en réalité.
Oui, c'est bien pensé,
ouais,
au contraire. Ouais. Et moi, ce qui m'étonne dans ce mouvement, c'est qu'il le dit lui-même, tout le monde peut s'y rallier, des libéraux, des radicaux, des écolos, enfin vraiment toutes les couleurs politiques. Donc en fait, ça veut dire qu'au-delà d'un certain nombre d'une volonté commune, d'une croyance dans l'idéal européen, etc., il n'y a pas véritablement de principes politiques qui seraient partagés par tous les membres. Enfin, c'est un truc un peu flou, non ?
Je pense que c'est justement exactement ça le problème de l'Europe.
Ah, ouais.
Parce que d'avoir voulu faire une union, une communauté politique sur le marché et la monnaie, au fond, c'est une hérésie, parce que ça crée une concurrence exacerbée entre les pays. Comme tu disais, hein, quand il y avait de la croissance, une bonne dynamique, bon, ça cassait un peu les contradictions, mais maintenant que tout le monde est confronté à ces problèmes, là on voit que l'Union, au fond, elle est en train de se dissoudre, hein. C'est l'effet que ça donne. On aurait dû faire un État européen avant de penser le marché et la monnaie.
Moi, j'ai l'impression qu'il veut vraiment le faire en constitutionnaliste, enfin faire simplement une constitution, enfin, comme tu disais, faire des assemblées, vraiment un mode de gouvernement complètement nouveau pour l'Union européenne. En soi, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un projet politique autre que la démocratie derrière. Bon, après, pour que ça fonctionne, on sait comment chaque réforme constitutionnelle a fonctionné. C'est parce que derrière, on avait quand même un projet politique relativement clair. Et c'est pour ça que, bon, c'est effectivement très utopique comme projet.
Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Clément, c'est-à-dire que le principe qui sous-tend le mouvement, c'est, enfin voilà, c'est ça le dit dans le nom du mouvement, hein, Democracy in Europe Movement. Donc c'est voilà, plus de démocratie, redonner le pouvoir aux différents peuples européens. Mais effectivement, c'est difficile de comment dire, établir une constitution aussi démocratiquement que ce soit-il, ouais. Sans projet politique cohérent derrière. Ouais.
Voilà, c'est bien le problème. On se réunit politiquement, mais autour de quoi, on ne sait pas trop. Alors, le mot démocratie fonctionne comme un petit gros lot qui permet d'appâter tout le monde, mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose.
Tout le monde est démocrate, ça ressemble pas plus qu'autre
chose. Qui n'est pas démocrate.
Mais après, c'est peut-être... on pourrait aussi penser que la société civile elle est dépolitisée vis-à-vis de la question européenne et que la création d'un mouvement comme ça ou l'émergence de ce mouvement en fait apolitique ou tout politique ça peut être vu comme un coup d'opportunité pour le leader et aussi peut-être ça répond à une vision que peuvent avoir le citoyen et la société civile d'une Europe dépolitisée, qu'on politise comme on veut. Celle qui nous enlève nos subventions agricoles, on peut finalement attaquer cette Europe de la manière dont on souhaite. Et peut-être que le mouvement répond à aussi une dépolitisation de la perception qu'en ont les citoyens européens.
Oui, exactement, parce que le mouvement s'adresse d'abord à des citoyens, quoi, des citoyens européens, avant de s'adresser à des hommes politiques. C'est-à-dire qu'il est fait mention de voilà, libéraux, centristes, verts, dans le manifeste, mais c'est un mouvement qui s'adresse d'abord à des citoyens européens.
Mais en se plaçant quand même à une échelle européenne, c'est-à-dire en prétendant partir du haut, c'est-à-dire d'une structure transeuropéenne qui redescendrait ensuite vers les citoyens et vers les structures politiques nationales, ça a vraiment des chances de marcher, un truc pareil ?
Bah ça, j'en sais rien. Ils en sont pas convaincus.
L'avenir nous dira, mais même eux n'ont pas l'air très convaincus.
Voilà, mais c'est ça. En tout cas, l'objectif, c'est une assemblée constituante, donc qui est vraiment composée de citoyens, qui redonne plus de pouvoir à la fois aux différentes nations, mais aussi aux assemblées régionales et locales. Donc c'est vraiment... c'est-à-dire la décision peut être prise là, mais il y aura toujours consultation du peuple en permanence, quoi. C'est l'objectif.
Et puis on peut revenir aussi sur mon édito politique et aussi ce qui a ouvert la revue de presse de Clément, c'est Sarkozy. Enfin, on est en 2016, Sarkozy est plus président depuis 4 ans.
Enfin, il est toujours président de quelque chose.
Il est toujours président de quelque chose, bien entendu.
Il se débrouille toujours pour.
Est-ce que vous partagez mon agacement comme ça, ma lassitude à l'égard de l'histoire qui se répète encore et encore, de cet enlisement politique auquel on assiste.
Plus que jamais.
Oh oui.
Plus que jamais.
Oui, c'est le mot, hein, c'est lassant, vraiment, c'est fatigant, épuisant même.
Ouais, c'est ça, le côté sclérosé des appareils de parti au niveau national. On a l'impression que c'est plus que des personnages médiatiques, des réseaux.
Et voilà, oui.
Au moins, pourquoi il n'y a pas de nouvelles têtes qui émergent, quoi. L'UMP comme le PS, ils ont plein d'élus locaux, toujours des réseaux d'énards qui tournent derrière. Enfin, il devrait toujours avoir quelqu'un dans le style.
Mais ça finit par tourner à vide, très clair.
Qui pourrait remplacer, au moins là, changer de figure, changer de tête. Ouais. C'est assez évident que la majorité des gens sont complètement gavés, il n'y a pas d'autre mot. Ça leur apparaît comme un bal médiatique.
Puis Sarkozy tourne complètement à vide. Enfin, on voit bien dans ses prises de position ces deux dernières années, il dit tout et n'importe quoi. Un coup, il va abroger le mariage pour tous, un coup, il a décidé de le laisser, un coup, il faut accueillir des migrants, un coup, il ne faut pas les fusiller à la frontière, mais presque. Enfin, il dit tout et n'importe quoi en moins de 5 minutes. Enfin, bon,
il a quand même pris le temps d'écrire...
Il a pris le temps d'écrire un livre. Oui. J'imagine que c'est un excellent livre. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le lire. Mais bon, enfin, ça s'en tient ridicule quand même.
Le plus lassant, c'est l'absence de débat en fait. Le débat est complètement vide. Ils sont tous d'accord. Je veux dire, PS c'est à la fois les mesures des Républicains et du Front National. Donc, de quoi ils veulent débattre ? C'est primaire, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire ? Et tu l'as dit d'ailleurs dans ta revue de presse.
Enfin, oui, on est bien d'accord, il n'y aura pas de débat parce qu'il n'y a rien à débattre.
Et... C'est incroyable. Alors qu'il y aurait à débattre. Des sujets, on prend que des sujets, économiquement, il n'y a plus de débat parce que sinon c'est la crise. Au niveau des problématiques de sécurité, de gestion de l'intérieur, on prend plus, c'est pareil, on s'écarte plus, sinon c'est l'attentat.
Ouais. Voilà, c'est le danger qui nous menace.
Loi, c'est quand même incroyable qu'on en soit là, quoi.
Mais notre lassitude autour de la table, je pense qu'elle est partagée au sein des Républicains. C'est-à-dire que...
J'espère.
Non, de leur électorat que... aussi, hein, les gens qui votent à droite pour la plupart.
Mais même au sein de l'UMP, là, quand ils ont tenu leur grande messe, là où Sarkozy a fait son grand discours il y a 3 jours, ils attendaient les 2000 conseillers nationaux, ils en ont eu à peine la moitié. Les conseillers nationaux, donc s'ils sont sept, les cadres du parti, il y en a la moitié qui se sont déplacés, il y en a à peine la moitié qui ont voté pour élire le nouveau secrétaire général.
Bah, ça leur fait du bien.
Sur la question des primaires, en l'occurrence pour la gauche, moi je trouve quand même que c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où oui, les personnalités politiques ne changent pas, et surtout à gauche, si on prend le Parti Socialiste, François Hollande est le candidat légitime. À partir de là, est-ce que d'ailleurs un président sortant doit être le candidat légitime ou non? La question de la primaire, c'est pas pouvoir, oui, malheureusement, changer de candidat ou pas, mais de peut-être faire plier cet homme qui est légitime dans d'autres perspectives ou revenir à d'autres fondamentaux portés du coup par le parti, mais portés aussi peut-être par des sympathisants ou militants de ce parti. Et donc une primaire à gauche, ça peut être intéressant puisque, donc même s'il peut y avoir polémique, etc., il y a quand même une base partisane qui va essayer de... ça peut être un moyen de pression et un moyen de justement remettre peut-être les pendules à l'heure.
Oui, donc l'idée, ce ne serait pas de substituer un candidat de gauche à François Hollande, mais de réorienter la politique menée par Hollande.
Et voilà, d'exercer quand même un moyen de pression sur les dires et l'agir de l'homme politique légitime, enfin, pour ce parti en l'occurrence.
Mais si je peux me permettre, il y a quand même un problème énorme dans cette primaire, c'est que pour moi ça n'a aucun sens de faire une primaire qui va de Macron à Mélenchon, parce que c'est comme si on faisait une primaire qui mettrait Besancenot et Wauquiez dans le même sac, quoi. Enfin, c'est des gens qui n'ont rien à voir. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des voix divergentes si on fait une primaire à gauche. Pour moi, c'est vraiment comme si on faisait une primaire où on mettrait l'extrême gauche et l'extrême droite dans un même sac. Presque. Il n'y a rien à voir entre les deux.
Il est temps qu'ils consomment le divorce tous autant qu'ils sont. À la limite, la primaire, ça pourrait être la seule utilité de la primaire, bien montrer que c'est fini. Il y a au moins deux grandes gauches maintenant.
Oui, ouais, peut-être, mais bon.
Que même à l'intérieur du PS, s'ils en pensent faire des primaires, c'est-à-dire qu'ils partent pas du principe que leur président doit être réélu, ça pose des questions, quoi. À la limite, les primaires de l'autre gauche, de la gauche radicale, ça pourrait avoir du sens.